Bulle d'histoire. Stéphane Dubreuil.
Wow.
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées.
Bienvenue dans une nouvelle bulle d'histoire. On est toujours sur Art District Radio. Je suis avec Olivier Petit, éditeur. Il va nous dire de quelle maison d'édition. Vous allez voir, c'est pas très mystérieux. Mais en tout cas, avant de commencer, Olivier, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que tu peux répondre à la première question de toutes les bulles d'histoire? C'est qui es-tu?
Alors, je suis un éditeur passionné de BD depuis ma tendre enfance. Je suis donc le fondateur et le directeur des éditions Petit à Petit, une maison d'édition nationale qui développe à peu près 24 BD par an et qui a la particularité d'avoir choisi une ligne éditoriale qui s'oriente sur le docu-BD. Voilà.
Alors, d'où vient ta passion pour la BD? Est-ce que c'est quelque chose d'enfance? Est-ce que tes parents t'ont initié? Est-ce que oui, tu es tombé dans la marmite quand tu étais petit?
Ah, mais complètement. Moi, j'ai été élevé avec Tintin, Lucky Luke, Astérix, Bug Dany, Michel Vaillant. Et puis, j'ai participé très tôt à un fanzine de bande dessinée qui s'appelait Sapristi et qui avait notamment eu l'Alphard fanzine il y a très longtemps. Et moi, j'ai démarré à 24 ans dans ce fanzine passionné de BD parce que j'étais de la région d'Iépoise. Et comme ça, je me suis retrouvé à Angoulême sur le stand du fanzine. J'ai fait des scénarios, j'ai fait des interviews comme tu es en train de faire. J'ai rencontré des auteurs et la passion m'a prise. Puisque un jour, j'ai décidé de changer de métier et de faire éditeur de bande dessinée.
Depuis combien de temps tu es éditeur? Quand as-tu fondé Petit à Petit?
1997.
Oui, donc c'est une belle maison bien installée, quoi.
Ben, disons qu'au début, c'était sous forme associative, hein, un bouquin, puis deux, puis trois. Et puis en 2000, c'est devenu une SARL. Et donc, ça fait 24 ans et j'ai édité plus de 400 titres en 24 ans. Aujourd'hui, au catalogue, il y a encore à peu près 120 titres.
Alors, pourquoi éditeur et pas auteur de bande dessinée?
En fait, au début, je voulais être auteur. J'avais eu l'idée de faire les chansons de Boris Vian en bande dessinée. Et puis après, quand je me suis renseigné pour le présenter à des maisons d'édition, et j'ai vu que c'était compliqué. C'était il y a plus de 20 ans. Hein, j'ai dit, bon, mais puisque c'est compliqué, puisque c'est pas assez cela... je vais le faire moi-même. Et comme j'étais dans une agence de publicité, je savais déjà travailler d'une part avec des graphistes, des auteurs, mais aussi avec des imprimeurs. Il me restait que la partie commerciale à apprendre. Et je t'avoue que la marche était haute.
Oui, elle est très haute en BD, oui.
Ouais.
Parce qu'il n'y a pas de recette, c'est bien ça le problème. Il n'y a pas beaucoup de recettes en édition, mais en BD, quand on discute avec des éditeurs, il y en a encore moins. Quoi. Il y a beaucoup d'irrationnel.
Ouais, mais c'était une époque qui était quand même plus facile qu'aujourd'hui parce qu'à cette époque-là, il y avait moins d'albums sur le marché et donc les libraires BD étaient plus enclins à faire travailler des petites maisons d'édition. Et moi, j'ai eu cette chance, hein, je me suis appuyé sur Sapristi, j'ai appelé tous les libraires qui diffusaient déjà Sapristi et je leur ai dit, ben moi, je fais partie de l'équipe de Sapristi et j'ai sorti une BD et ils m'ont ouvert grand leurs portes. Hein. Je me rappelle de Samuel Chauveau au Mans, à l'époque, qui m'en avait commandé une vingtaine. J'étais fou de joie, quoi. Mais aujourd'hui, je pense que ça, c'est très, très, très compliqué, vraiment beaucoup plus compliqué.
Oui, je voulais vous rappeler aux auditeurs qui nous écoutent et auditrices que chaque année, il y a grosso modo 6000 albums qui sortent par an. Donc, même s'il y a 3000 mangas, il y a quand même 6000 albums à vendre dans les librairies.
Oui, 6000 nouveautés, plus les rééditions, les intégrales, etc. On est autour de 7000 à chaque fois. Hein. 7000 qui sont présentés aux libraires.
Oui, donc il faut trouver son chemin pour être présenté. Et toi, tu as trouvé un chemin très particulier, donc qui est le docu-BD.
Ouais. Bon,
tu peux nous expliquer un peu ce que c'est, avec des collections très, très identifiées. Alors, qu'est-ce que c'est le docu-BD?
Alors moi, mes parents étaient instituteurs. Et en fait, j'ai toujours baigné dans la transmission des savoirs. Et j'ai eu envie de transmettre les savoirs aussi à toutes sortes de publics, hein, des jeunes, des moins jeunes, des migrants, des étrangers, de façon ludique avec la bande dessinée qui raconte une histoire et un documentaire qui offre une information complémentaire qui permette de prolonger la découverte. d'ouvrir des champs de découverte. Et le premier album que j'ai sorti en 97 sur les chansons de Boris Vian, c'était déjà ça. C'était une quinzaine de chansons de Boris Vian dans leur texte intégral pour respecter l'auteur et des petits textes qui donnaient des informations supplémentaires sur Boris Vian, sa vie d'écrivain, son pseudo Vernon Sullivan, Saint-Germain-des-Prés à l'après-guerre. Et ça a démarré dès le début comme ça. Et puis après, ça s'est développé, ça s'est amélioré. Et aujourd'hui, on traite de tas de sujets sur le docu-BD. Mais c'est vraiment aussi un souvenir de bachotage, tu vois. Je me rappelais quand il fallait apprendre Victor Hugo, Baudelaire, Rimbaud au moment du bac de français, ou Corneille, ou Phèdre. C'était l'enfer pour moi. Et je me suis dit, il faut que je trouve un truc pour les mômes. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de leur donner cette possibilité d'acquérir du savoir avec quelque chose de très rapide, de très agréable et dont ils vont se souvenir.
Oui, parce que quand on regarde ton site et tes collections, et effectivement, il y a le théâtre en BD, l'art en BD, c'est très éclectique et effectivement, c'est hyper pédagogique.
Ah ben oui, le style de Corneille. Quand tu penses au style de Corneille, on a tous souffert de ça quand on était au lycée pour l'apprendre. Là, tu donnes le style de Corneille à un gamin. Il a le texte intégral à la virgule près, mais mise en scène, donc il repère les personnages, il repère les lieux, il repère le temps, et en un week-end, il a lu le site de Corneille, et il peut passer un trimestre à participer avec son prof, à échanger et à aimer Corneille et à aimer les classiques grâce à ça.
Tu sais, tu connais la réception du théâtre en BD, par exemple, auprès des profs de français ?
Ah ben, je sais que ça marche très bien à notre niveau, mais ça a été très très dur. Tu sais, au début, je me rappelle quand je l'ai sorti, je me suis retrouvé au rectorat de Rouen face à un directeur pédagogique qui m'a pris de haut, mais vraiment très 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 mal, en me disant mettre Corneille en BD, mais c'est n'importe quoi. Je te jure, il fallait vraiment être costaud et y croire pour continuer à casser ces barrières, pour rendre accessible le savoir. Et aujourd'hui, le site de Corneille en BD, chez nous, ça a dépassé les 30 000 ventes, mais ça a pris du temps, j'ai dû m'accrocher, j'ai dû vraiment pousser des portes et y croire. Et encore aujourd'hui, je pense que c'est un bouquin qui devrait être vendu, mais 4 fois plus. Parce qu'il y a des gens qui le découvrent maintenant, et des fois, j'ai des classes, des profs qui m'écrivent et me disent « Est-ce que je peux en commander 10 ?» Je dis, bah oui, bien sûr, et je suis trop content quand j'en envoie 10, parce que j'imagine la classe qui va être en train d'apprendre le site de Corneille en lisant la BD.
Oui, 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 puis ce qui n'empêche pas après de faire un travail pédagogique vraiment de prof de français à partir de là. C'est une belle porte d'entrée vers le théâtre classique, quoi.
Ah oui, carrément, oui. On a le Cyrano de Bergerac qui marche très bien aussi, mais qui est beaucoup plus accessible. Bon, c'est dans les classiques, c'est plus moderne. Mais en fait, en plus, dans notre bouquin, on donne des tas de petites anecdotes. Pourquoi cette expression-là, pourquoi les personnages, présentation des personnages, contexte historique. Enfin, on fait vraiment un vrai boulot d'accessibilité.
Alors, il y a un truc chez vous qui est très spectaculaire, c'est les villes en BD. Ça, je dois dire que c'est à la fois pour moi, c'est un acte commercial hyper malin, parce qu'on sait que les gens qui visitent des villes, ils sont assez friands de guides, de choses historiques. Comment vous avez eu l'idée de faire cette collection de villes en BD? Qui, je crois, vous avez dû faire 25 ou 30 villes maintenant, quoi.
37 villes.
Ouais, c'est ça. Des petites, des grandes. Comment vous avez eu l'idée de faire ça?
Eh bien, écoute, toujours pareil, hein, avec mes propres ressentis. J'aime beaucoup la BD historique et j'aime beaucoup ma ville, qui est la ville de Rouen. Et quand je promenais mes enfants dans la ville, j'aimais bien leur raconter des anecdotes. Quand on passait devant un lieu emblématique, quand on allait dans une rue, etc. Et je cherchais le moyen de transmettre ce savoir de façon ludique, mais je n'aimais pas trop les BD historiques qui étaient faites, que je trouvais un peu vieillottes, un peu convenues, et aussi, limite, aussi rébarbatives que certains bouquins d'historiens. Et donc, j'ai décidé de faire ces collectifs avec plusieurs chapitres, en saucissonnant l'album avec des pages documentaires et demander au scénariste de créer une histoire avec un fil rouge qui permettrait de raconter l'histoire d'une ville à travers une quête, à travers une famille maudite, à travers un pendentif maléfique, etc. Mais qui est une véritable action, une véritable fiction au sein de la réalité historique des lieux, des choses, etc. Et je t'avoue que quand j'ai fait ce bouquin, qui est un ovni dans le monde de la BD, parce que déjà, faire un album collectif, bon, ben, les libraires, ils n'aiment pas trop. En plus, tu fais un album collectif que tu saucissonnes avec des pages documentaires. Je peux te jurer que quand je l'ai envoyé chez l'imprimeur, j'ai dit, ouais, là, je suis en train peut-être de faire la plus belle connerie de ma vie. Et quand les 5000 albums sont arrivés, que je les ai stockés dans mon salon, j'ai dit, c'est vraiment une énorme connerie. Sauf que ça a décollé, mais à Rouen, les libraires, je me rappelle, je livrais moi-même à l'époque, hein, je n'avais pas de diffuseur, distributeur, je livrais tous les matins à la FNAC. C'est-à-dire qu'ils m'en commandaient 100 par jour à une époque. C'était du gros délire. Et j'en ai vendu 5000 comme ça en 2 mois. Et là, j'ai dit, waouh, je tiens un truc. J'ai fait Le Havre après, j'ai fait Caen. Et puis après, j'ai développé ce concept de docu-BD avec des chapitres suivis de pages documentaires sur des tas et des tas d'autres thèmes.
Et pourquoi tu choisis des collectifs et pas un seul dessinateur qui va suivre ? Enfin, y a des villes qui sont faites que par un seul dessinateur. Hein, mais pourquoi le collectif est important ?
Alors, c'est très important pour plusieurs raisons. La première raison, c'est de faire participer le maximum d'auteurs locaux à l'histoire de leur ville. On n'est pas des mercenaires, on ne vient pas dans une ville avec notre équipe. On va dans une ville, on contacte les libraires, on leur demande le nom des auteurs locaux, scénaristes, historiens, dessinateurs, et on essaye de travailler avec les gens qui sont déjà du cru. Parce que, évidemment, ils vont avoir beaucoup de plaisir à raconter l'histoire de leur ville, parce qu'ils aiment leur ville. Ils ont aussi un réseau, ils ont aussi facilité à faire de l'animation en librairie. Tout ça, c'est très important. Et d'un point de vue beaucoup plus technique, comme on a des petits chapitres, on n'embarque pas un dessinateur sur un an de travail. Parce que les dessinateurs de BD, c'est des auteurs à part entière, ils aiment raconter leur histoire. Là, c'est un peu une commande. Donc, quand on leur dit, tu peux me faire 5 planches sur l'histoire de Reims au Moyen-Âge, ils sont OK. Si je leur dis, tu peux me faire 45 planches sur l'histoire de Reims en BD, ils vont faire, ouais, j'ai autre chose à faire là, si tu veux. Donc en fait, c'est aussi plus confortable et plus attractif pour les dessinateurs. Et comme on travaille par chapitre et qu'entre chaque chapitre, il y a un temps de respiration avec les pages documentaires, eh ben ça a fonctionné. Parce que si tu veux, les gens ne lisent pas cet album-là de façon linéaire en une seule fois. Ils viennent piocher dedans, ils picorent. Et du coup, ça fonctionne très bien de cette manière-là.
Oui, parce que pour ceux que j'ai lus, on peut même lire soit que la BD, on peut même lire la BD d'un coup sans s'arrêter. Ah, oui. On suit une histoire, on n'est pas dépaysé, c'est pas saucissonné. C'est ça que je trouve intéressant dans ces albums de ville.
C'est pour ça que j'ai souhaité que le scénariste il trouve un fil rouge et que en fait et qu'on soit dans un véritable page-turner. À la fin du chapitre, on se dit waouh, qu'est-ce qui va se passer dans le prochain chapitre. Et je sais qu'il y en a qui sautent les pages documentaires, ils n'ont pas le droit, mais je sais qu'ils le font. Mais en fait, après, ils y reviennent. Parce que c'est quand même vachement intéressant. Et moi, ce que j'adore, c'est quand tu as des seniors qui me croisent sur les salons et qui me disent « Mais j'ai découvert dans votre BD. » Déjà, je n'ai pas l'habitude de lire des BD, monsieur. Mais là, comme il y avait du documentaire avec, ça m'a intrigué. Et ce qui est incroyable, c'est que moi, je suis né dans cette ville et j'ai découvert des choses. Là, je peux te jurer que l'éditeur, il est content, il a la grosse banane, toi.
L'autre chose, moi, qui m'intéresse dans vos collections, c'est évidemment l'histoire en BD. On est dans une émission qui s'appelle « Bulle d'histoire ». Donc, c'est évidemment un truc très, très important. Là aussi, même principe, à chaque fois, on a une histoire qui est entrelardée de documentaires. Moi, j'avais découvert cette série avec La guerre de 14, qui est sortie il y a une petite dizaine d'années, 7-8 ans.
Ouais.
Là, ça ressort maintenant avec un petit nouvelle maquette, entre guillemets, quoi. Et j'avais été assez scotché parce que je m'étais dit, bon, je connais déjà plein de trucs sur la guerre de 14, un truc qui va essayer de me faire des leçons d'histoire. Et en fait, c'est jamais ça. Vous avez réussi à une alchimie assez subtile de faire de l'histoire et à chaque fois de la rendre hyper ludique et hyper, hyper chaleureuse.
Ben c'est le succès, c'est ce qui fait notre succès, c'est-à-dire de pas faire ce qui a déjà été fait, ce que font déjà les autres très bien, mais c'est de trouver un angle nouveau pour susciter la curiosité, l'intérêt, l'enthousiasme. Et là, la guerre de 14, mon idée, c'était d'avoir une histoire qui démarre à la mobilisation et qui se termine à l'armistice, est l'entrecoupé de tous les lieux de commémoration, de découverte, tous les vestiges de la guerre de 14-18 en France, et Dieu sait s'il y en a. Donc c'était à la fois la découverte de l'histoire telle qu'elle est, et aussi aller sur les traces du passé et avoir au pied de chez soi des vestiges, vraiment mettre le lecteur dans le réel, quoi.
C'était oui, ça. C'est une sorte de guide touristique aussi, parce que quand la BD était sortie, moi je l'avais découvert à Blois, on avait fait inviter l'auteur au salon de la BD historique du musée de la Grande Guerre à Meaux.
Oui, je m'en souviens, oui.
Le public avait été enthousiaste, quoi. On avait été nous-mêmes étonnés de voir la queue qui s'était formée pour avoir une dédicace, acheter le bouquin, et les gens du musée étaient ravis, parce qu'ils nous ont dit enfin un guide touristique de la Première Guerre mondiale qui n'est pas le petit futé, qui n'est pas le guide rouge, et qui est autre chose et qui va intéresser. Et ça intéressait vachement les jeunes. C'était ça aussi qui était très étonnant.
Oui, bah du coup, on a développé les guides touristiques. Hein, on a fait le guide après des châteaux de la Loire, le guide de la Corse, le guide de Paris aussi. Découvrir 15 lieux emblématiques de Paris que l'on connaît, mais qu'en fait, on ne connaît pas forcément, hein, la conciergerie, qu'est-ce qui s'est passé, les catacombes, etc. Et on a développé comme ça des guides historico-touristiques qui rencontrent un franc succès, effectivement. Nous, notre public, c'est simple, hein, ce n'est pas le public de fans de BD. Hein. Le public de fans de BD, il va acheter Torgal, il va acheter Black Sad, il va acheter Rip, je ne sais pas si vous connaissez Rip.
Oui, mais... très bien.
Mais par contre, le grand public, celui qui n'a pas de fan attitude, mais qui est attiré par les sujets, là, c'est notre public, quoi. Et lui, il vient chez nous parce que le sujet lui plaît.
Dans les docu-BD histoire, il y en a un qui m'avait beaucoup, beaucoup impressionné, à la fois par l'histoire, que j'avais trouvé absolument magnifique et surtout intelligente et même originale, et un dossier historique, là aussi, qui était très profond, très puissant, avec des historiens très importants, c'était celui sur la guerre d'Algérie.
Ouais, gros travail.
C'est la plus belle réussite des docu-BD histoire, c'est le plus fort, le plus puissant. Enfin voilà, c'est une BD que j'aime beaucoup, que je conseille quand on s'intéresse à la guerre d'Algérie. C'est un sujet quand même pas facile en BD, il y a beaucoup d'albums, mais il n'y a pas forcément de grands albums. Mais celui-là, je trouve qu'il est très marquant à la fois dans votre collection, et puis, bon, dans l'historiographie de la guerre d'Algérie. Est-ce que ça a été compliqué de faire cet album ?
Ça a été très, très compliqué. Ça a été très, très compliqué parce que je savais que le sujet était sensible, que je ne voulais pas qu'il y ait un parti pris, je ne voulais pas refaire l'histoire. La volonté, c'était vraiment de raconter de façon très détachée les faits et rien que les faits. Donc on a demandé à un scénariste, Jean-Blaise Jean, de nous faire une histoire, et donc il est sorti des clichés habituels, hein, qui sont soit dire que les soldats français étaient des monstres sanguinaires, ou alors que les résistants algériens étaient aussi assoiffés de sang. On est sorti de tous ces clichés là. Et on a raconté, il a raconté une histoire qui nous a permis d'aborder tous les sujets de la guerre d'Algérie, le début de la colonisation en Algérie jusqu'à son indépendance. Et ça a été très dur parce que je savais que chaque mot allait être disséqué, chaque dessin allait être forcément interprété selon qu'on était d'un côté ou de l'autre. Et on a travaillé avec à deux éditeurs. J'ai travaillé avec Rémi Piello, mon éditeur, qui était là, à l'époque. Là, on a beaucoup travaillé tous les deux, mais on a passé des nuits entières à relire le livre, à retoucher les textes, etc., pour offrir au lecteur quelque chose où il n'y a pas de parti pris et où il avait, en 120 pages, une vision de la guerre d'Algérie. Parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez à un gamin de 14 ans, parle-moi de la guerre d'Algérie, pour lui, c'est le Moyen-Âge. Et donc là, avec nos docu-BD, il pouvait tout à fait comprendre, en lisant une BD, un docu-BD, ce qui s'était passé, comment ça avait démarré, et pourquoi ça avait démarré, et comment ça s'était terminé, et pourquoi aujourd'hui, on a encore des gamins de franco-algériens qui sortent leur drapeau dès que l'Algérie marque un but. Pourquoi ? Bah parce qu'à une époque, le drapeau, ils étaient interdits de drapeau, ces gens-là. Ils n'avaient pas le droit de sortir leur drapeau. Donc aujourd'hui, dès qu'il y a une occasion, ils sortent leur drapeau. Si on expliquait ça aux gens, il y aurait un petit peu moins de xénophobie en France.
Oui, en tout cas, c'est vraiment un bouquin que je conseille, qui est vraiment un très très beau livre sur la guerre d'Algérie, et en plus une excellente BD, ce qui ne gâte rien. Alors il n'y a pas que des docus chez Petit à Petit, hein, y a aussi des fictions, j'allais dire des albums non documentaires. Et moi j'avais découvert Catamount, et là j'avais découvert ça à Blois, j'avais une magnifique dédicace de l'auteur. C'est un western que j'aime beaucoup. Wilucha, qui est sorti l'an dernier, pareil, qui est un bel album d'aventure, très puissant, très sanglant, mais qu'on a plaisir à rencontrer, à pénétrer cette histoire. Et puis il y a Rip. Rip, qui est une histoire très improbable, une sorte d'ovni, et qui a cartonné, on peut dire ça comme ça, quoi.
Et qui continue de cartonner. C'est des histoires humaines. C'est-à-dire que Catamount, j'ai rencontré Benjamin Blasco Martinez, il présentait ses travaux d'élève à l'école Émile Cole à Lyon, et il m'a présenté Catamount, et tout de suite on a accroché tous les deux. Je me dis, mais c'est quoi cet ovni, c'est super cinématographique ce qu'il fait. On est vraiment devenus amis. Benjamin continue de travailler pour moi énormément, il fait des magnifiques couvertures, il est toujours dispo pour me donner un coup de main et mettre son talent à notre service. Et Catamount, c'est une très belle série en 4 tomes qui vraiment mérite d'être encore découverte, parce que je trouve que c'est vraiment très original et très très bien fait. Il a fait Wilucha effectivement dans la foulée, qui est une histoire formidable, comme vous l'avez dit. Et Rip, c'est une histoire encore humaine aussi, parce que le scénariste de Rip, c'est mon fils. Et quand il m'a proposé Gaëtan, mon fils, il travaille avec moi depuis des années. Il a fait des tas et des tas de docu-BD chez Petit à Petit. Il a commencé à 17 ans. Il a aujourd'hui 37 ans. Ça fait 20 ans qu'il est scénariste. Il a été formé au club et à la dure. Et quand il a écrit le scénario de Rip, je lui ai dit, putain, c'est vachement bien. Mais alors, va voir les gros éditeurs, parce que là, ça mérite d'avoir une collection signée chez Dupuis, chez Futuro, chez Casterman. Enfin, il faut que tu y ailles. Il a fait la tournée de tous les éditeurs, même certains qui étaient des amis à moi, que je lui avais conseillé. Et les éditeurs, ils ont tous dit, ah là là, c'est pas ce que le lecteur attend aujourd'hui. C'est quand même vachement glauque. Bon, ils n'ont pas été très bons. Donc Gaëtan, il est revenu, il m'a dit, écoute, je n'ai fait que des refus sur cette série. Je lui ai dit, écoute, on va essayer de trouver un dessinateur. Et moi, j'avais déjà travaillé donc avec Julien Monnier, qui est le fameux qui a fait le guide de 14-18. Ouais, tout à fait. Je m'entendais très très bien avec Julien, et j'avais fait plusieurs albums avec lui. Et je me dis, Julien, il a un style qui est en train de mûrir, qui est en train de monter en qualité, c'est impressionnant. En plus, c'est un mec qui est adorable, mais vraiment adorable. Et je les ai mis ensemble. Et ils ont matché tout de suite. Et ils m'ont dit, bah, écoute, tu nous as mis ensemble, ça a matché, on voudrait le faire chez Petit à Petit, même si ce n'est pas ta ligne éditoriale, on va le faire chez toi. Et donc, on l'a édité, mais on n'a pas gagné. Parce que le libraire, lui, il était habitué au docu-BD de chez Petit à Petit. Quand mes représentants sont arrivés, ont présenté RIP, ils ont dit, bon, c'est quoi ça ? Petit à Petit, d'habitude, ils font l'histoire des villes en BD, l'histoire de l'Algérie, l'histoire de Jeanne d'Arc. Franchement, je vois pas pourquoi ils seraient crédibles à faire ça. Merci les copains. En attendant, Gaëtan et Julien, ils ont fait après beaucoup, beaucoup de dédicaces. Ils se sont fait découvrir auprès des libraires. Et aujourd'hui, on est à plus de 200 000 ventes. Voilà. Mais il a fallu, une nouvelle fois, mettre le couteau entre les dents et aller au combat vraiment beaucoup, beaucoup, quoi.
En tout cas, c'est une série absolument géniale. Moi, j'avais été scotché par le 1. Et bah, après, je les ai tous lus. Hein. Y a pas de... C'est un vrai plaisir. Est-ce que tu peux juste nous faire un peu le pitch de Rip pour donner envie à ceux qui ne connaissent pas de
ce film et leur libraire ? Rip, c'est quoi ? C'est une équipe de 6 personnages qui ont des horizons très différents et qui sont plutôt des personnages un peu cassés par la vie pour diverses raisons, et qui bossent dans une boîte dont le boulot est très très glauque aussi. Ce sont les boîtes qui doivent aller débarrasser les lieux quand il y a eu un décès dans une maison et qu'il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'héritier, il n'y a rien. Donc, personne ne s'occupe de ces gens-là. Donc, eux, ils arrivent, et le cadavre est encore là. Ils s'occupent de dégager le cadavre et ils s'occupent de vider la baraque. Tout ça est mis dans un entrepôt avant que la police déboule ou que les pompes funèbres déboulent. Voilà, c'est ça leur boulot. C'est un boulot de merde, voilà. Mais un jour, il y a une bague de valeur qui disparaît. Et là, tout le monde se dit, mais putain, où est cette bague ? Et là, ça va nous emmener pendant 6 albums, parce qu'on va découvrir dans chaque album un des personnages de la bande, parce qu'évidemment, ils sont tous suspicieux les uns des autres, mais ils ont tous une interprétation différente de ce qui se passe dans cette histoire. Et selon le regard de chacun, selon l'interprétation qui est là, on va découvrir un pan de l'histoire différent. Et on va aussi découvrir à travers ces 6 albums, 6 portraits, 6 mecs qui sont là. Il n'y a pas que des mecs, d'ailleurs, il y a une nana qui sont là. Et on va découvrir pourquoi ils sont là. Parce qu'il y en a, ils sont là parce que le destin les a amenés là. Mais il y en a, ils ne sont pas là par hasard non plus. Et ça, ça crée une histoire avec des retournements de situation, des impasses et un délire graphique de Julien qui, pour la même scène, va des fois devoir la dessiner sous 3 angles différents. Et nous fait découvrir dans le tome 4 un truc qu'on n'avait même pas vu dans le tome 1. Donc, c'est plein de surprises. C'est super bien foutu. Et on est tenu en haleine en permanence. Et à chaque fois qu'un album sort, on est obligé de relire les 3 autres avant parce qu'on se dit, ah, y a encore un truc qui nous ont glissé là. Et c'est vraiment, vraiment très, 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 très bien. Je suis très content parce que Julien et Gaëtan vont sortir un nouvel album chez Petit à Petit à la fin de l'année qui s'appelle Fanman, l'homme au ventilo. Et cette fois-ci, c'est un one-shot, mais on retrouve leurs pattes, on retrouve leur délire et on retrouve leur talent. Donc, je suis très, très content.
Mais en tout cas, Rip, je conseille de lire ça parce que d'abord, c'est une super histoire, le dessin est génial. Et puis, c'est assez réjouissant de revoir toujours la même scène vue 6 fois différemment. Enfin, voilà, c'est vraiment jubilatoire comme série, au-delà du métier de merde que font les personnages. Quoi.
Ouais.
Alors, le temps passe, mon temps est compté dans cette interview. Pour terminer, quels sont les projets de Petit à Petit pour l'année qui vient ?
Ah ben, l'année qui vient, là, écoute, on a des 2 QBD qui sont liés à l'actualité qui est très forte cette année parce qu'on a les Jeux Olympiques. Donc, évidemment, nous, on a fait un pavé pour raconter l'histoire des JO, mais pas l'histoire, pas les résultats sportifs, mais plutôt les coulisses, les trucs, les magouilles, etc., des JO. Quoi, on a aussi l'histoire du débarquement de Provence et de Normandie, dans un très beau docu-BD. On a un docu-BD sur le massacre à Oradour-sur-Glane, parce que là, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, et j'ai tenu aussi à aider à la restauration des vestiges d'Oradour-sur-Glane en reversant une partie du bénéfice à l'association des anciens d'Oradour-sur-Glane. On a évidemment notre fameux fanman dont je viens de parler avec Julien et Gates. On a une BD sur le Caravage, on a une BD sur le Tour de France et on a aussi une nouvelle collection qui démarre très très fort qui est sur les enquêtes policières. Et on a sorti l'année dernière l'affaire Dupont de Ligonnès via la traque, où on a retracé les recherches qui ont été effectuées depuis 12 ans pour retrouver le suspect numéro 1. Et là, on va faire l'affaire Godard, qui est pareil, une histoire de dingue, et l'affaire Villemain, qui est encore une histoire de dingue, qui vont sortir cette année. Et cette collection enquête policière, elle me plaît beaucoup parce que, comme tu as aimé me le faire remarquer, on a aussi trouvé pour ce genre de sujet un angle nouveau, un angle différent, loin du sensationnel, loin du voyeurisme, mais plus proche de la réalité des recherches. Et donc, ça a démarré feu de Dieu avec le premier, la traque de Dupont de Ligonnès, et j'espère que ça va se poursuivre.
Je te remercie beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi pour parler de Petit à Petit, des collections, des nouveautés, de toute cette nouvelle façon de faire de la BD historique et de la BD pédagogique. Voilà, je te remercie vraiment et je te dis à bientôt.
C'est moi qui te remercie d'être penché sur nous, sur notre production et sur nos auteurs. Au plaisir.
Bulle d'histoire. Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil.
Waouh!
Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.